fait pour les cours. Et au final, ça s'est concrétisé et c'est resté.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens derrière les lettres SDL, LSF?
Du coup, SDL, ça va être pour sciences du langage. Et LSF, ça va être pour langue des signes française. Du coup, c'est ce qui régit la licence sciences du langage. Et langue des signes, ça va être seulement une option qu'on va avoir dans la licence dans laquelle nous sommes principalement. Et l'autre option qu'il va y avoir, ça va être les langues slaves.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler en détail de l'objectif de votre association ?
Alors notre asso, elle a l'objectif de rendre visible la licence, parce que la licence du langage, c'est pas forcément une licence qui est très visible, donc pas tout le monde ne connaît. Ça permet aussi d'avoir une meilleure cohésion entre les étudiants, donc intégrer les nouveaux, les premières années, faire des moments de cohésion, des soirées. Et aussi de sensibiliser à tout ce qui est langue des signes française, du coup, et aussi aux langues de France, donc Poitevin-Saint-Ongé, Occitan et certaines autres langues minoritaires, mais du coup qu'on dit langue de France.
Ok. Axel et Lucas, pouvez-vous nous détailler votre mission et votre rôle, du coup, au sein de votre association ?
Je t'en prie, Lucas.
Moi, mon rôle au sein de l'association, même si on fait un peu du touche-à-tout, en vérité, mis à part les trois rôles principaux du président, du trésorier et du secrétariat, moi, ça va être principalement, du coup, d'imaginer des événements qu'on va pouvoir faire tout au long de l'année et de les mettre en place avec les autres membres de l'asso, afin qu'ils puissent se concrétiser et être mis en place pour du coup, les différents étudiants de la licence et même aux personnes qui seraient intéressées du coup, par la langue des signes, les langues de France et tout ce qui pourrait toucher à la licence.
Et moi, en tant que responsable des partenariats, je suis chargé de coordonner toutes les collaborations qu'on peut faire avec différentes autres associations ou entreprises ou qu'importe les opportunités qu'on a de collaborer avec. Je suis en charge de collaborer et du bien fonder des événements avec Lucas, du coup. Voilà.
Et on suppose que vous n'êtes pas tout seul dans votre asso à gérer tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents rôles et missions qui vous aident dans le bureau ?
Donc, on a la présidence, présidente et vice-présidente. On a les co-trésoriers, ils sont deux à leur actif. Le secrétariat, une personne qui nous aide à faire tout ce qui est mail et autres. Et on a aussi un chargé d'événements. Du coup, Lucas responsable et un chargé. Et c'est tout. J'ai dit tout le monde ?
On est 8 actuellement, du coup, je crois qu'on a, on a fait le compte avec nous deux.
Ouais, avec nous deux, c'est bon.
Est-ce que vous êtes salarié dans l'asso ? Est-ce que vous faites autre chose en dehors ?
Pas du tout, c'est purement bénévole. C'est vraiment une association étudiante. Et en général, c'est les étudiants de la licence qu'on promouvra qui sont à l'intérieur. Là, actuellement, on est tous dans la licence.
Est-ce que vous proposez un accompagnement pour les étudiants qui ont besoin de vos services ?
C'est-à-dire nos services ?
Vos services, je parle de la langue des signes.
Ah, comme une sorte de tutorat ou
voilà,
quelque chose comme
exactement.
Ça. Alors, on a établi un système de parrain-marraine en début d'année, avec ceux qui étaient en deuxième et troisième année qui parrainaient ceux les premières années, ou alors en deuxième année, ils pouvaient aussi être parrainés ou marrainés, si c'était au choix. Et on a mis ça en place avec les personnes qui étaient intéressées. Et ça dépend si les gens ont gardé contact ou pas, c'était vraiment pour aider. Et on est toujours là pour aider nos étudiants, contact avec les profs, contact avec tout et n'importe qui pourrait sembler nécessaire et important.
Est-ce qu'on...
Je voulais juste dire, après un tutorat c'est un peu difficile, parce que nous aussi on est encore en apprentissage de la langue des signes. Donc s'il y a des L1 et L2 qui ont besoin d'aide sur un cours ou qui ne comprennent pas, bien sûr que ceux qui ont un niveau plus élevé, on va être là pour les guider et leur expliquer ce qu'ils peuvent ne pas comprendre ou leur expliquer à quoi ils vont s'attendre l'année prochaine. Mais un tutorat ou donner des leçons, ça va être un peu plus difficile parce qu'on est nous-mêmes encore en apprentissage rien que de la langue des signes. Donc on ne peut pas se prétendre à donner des cours nous-mêmes.
Est-ce que nous pouvons faire des dons à l'association ?
Oui. Qui veut donner, donne hein, en soi.
Et comment ça se passe du coup ?
En vrai, je dis qui veut donner donne, mais bon, on ne s'attend pas à ce qu'on ait des dons de personnes. Hein. Juste, déjà, si vous voulez venir à nos événements, si vous voulez voir comment ça se passe, venez, faites. C'est déjà très très bien. Nous, on est contents de ça. Après, faire des dons, souvent, on a des événements souvent où ça peut être des entrées payantes. Et du coup, le don en soi, c'est payer pour accéder à l'événement. Par exemple, on a fait des goodies avec des sweats et tout, pour, enfin des sweats. ça dépend de comment vous prononcez. Et là, du coup, bah oui, c'était payant si vous vouliez votre suite, forcément. Contrepartie financière qui est présente.
Et tout à l'heure, tu parlais de partenariat, pardon. Est-ce que vous êtes en partenariat avec des assos de l'Université de Poitiers ?
Oui, tout à fait. On a le label UP, le label assos de l'UP, et on est notamment en partenariat avec l'AFEP, pardon, je me suis trompé, l'AFEP aussi, hein, mais l'AFEP, et d'autres assos, en fait, toutes les assos qui font partie de l'AFEP. Et on est aussi en partenariat avec la Fédération des étudiants linguistes, la FNAEL, Fédération nationale des étudiants linguistes, des associations d'étudiants linguistes, pardon, je n'oublie pas de lettres. Et voilà, et d'autres petites associations plus ou moins dispatchées dans Poitiers.
Comment ces associations-là, elles vous aident sur vos projets ?
Vas-y Lucas, si tu veux parler, non ?
Par exemple, toi actuellement, c'est toi qui as monté principalement le projet du coup des Barcines, qu'on évoquera un peu plus tout à l'heure. Mais du coup, ce projet-là, il a été fait en collaboration avec Goule Jeune, ouais, l'association des jeunes sourds de Poitiers.
C'est ça. Et ouais, là par exemple c'était un des événements où on a collaboré ensemble pour faire l'événement. Après, de manière générale, quand on est aidé aussi par les fédérations, donc AFEP et FNAEL, ça peut être par rapport à structure interne de l'association, donc comment on peut gérer ça, comment on peut régler ce problème, comment on peut faire plus de choses, etc. etc. Ça dépend de la thématique dont on a besoin. Et des fois ils nous aident aussi par rapport aux événements, la communication ou plein d'idées.
Maintenant qu'on sait ce que propose votre asso, j'ai une question. Comment peut-on faire pour faire partie de votre asso ?
Eh bien, très bonne question, parce que en ce moment, on est en plein dans les candidatures de nouveaux bureaux. Donc ceux qui veulent en faire partie peuvent en faire partie. Après, la seule restriction en soi, c'est qu'il faudrait être étudiant à l'université, parce que ça reste quand même une asso étudiante. C'est pour ça. Mais en soi, il suffit juste de constituer sa liste et de l'envoyer par mail en disant « Voilà, moi je veux être président, moi je veux être trésorier, moi je veux être secrétaire », en ayant bien sûr les trois principaux, donc ceux que je viens de citer à l'instant. Et ensuite, du bonus, les gens qui veulent s'inscrire. Voilà.
Est-ce que vous avez des bureaux dans l'Université de Poitiers, ou comment on fait pour vous contacter ou vous retrouver ?
C'est notamment par mail ou sur Instagram. Instagram asso.sdl.lsf, si vous voulez. Et non, sinon, on n'a pas de bureau en soi. On est vraiment souvent par mail et Insta. Voilà.
Est-ce que votre asso est dispo pour tout le monde, ou il faut être spécialement étudiant pour faire partie de l'asso ?
Oh non, c'est dispo pour tout le monde. Hein. N'importe qui peut être adhérent tant qu'il est adhérent.
Place à la musique, nous revenons après cette immersion sonore. Je vous propose d'écouter Là où personne n'est de Jan Desplis. On se retrouve tout à l'heure.
Personne. Je sais, c'est ma faute si tu t'emportes et que tes gestes tombent comme la foudre en été. Me taire à tort, tout leur importe peu. Je reste à l'ombre sous le châtaignier. À l'écart du monde des autres, mon déguisement, j'aime me sentir vivante, souffler l'air de m'attracher, de plus avoir à me cacher. Juste un moment, aveuglé par le temps, suspendu dans l'horizon. Ce soir, je souris. Je suis seule, ta-da-da-da-da. Ce soir je souris. Je suis seule là où personne. Ça part en éclats. cette fois pas de joie. Comme souvent maintenant, je n'ai plus de voix, mais surtout plus le choix d'affronter sans cri ni pleurs. Pour me libérer de toi, c'était la dernière fois. Quelque part où silence règne sur la vallée, ma compagne des merveilles, en symbiose avec moi-même, un joli matin blême, presque envolé sur le vide en équilibre, résilience se manifeste. Ce soir je souris, je suis seul, ta-da-da. Ce soir je souris, je suis seul.
Pulsar.
Il est 18h13, vous êtes sur Radio Pulsar, bienvenue dans l'émission À l'Asso où on parle d'engagement associatif. Ce soir nous recevons l'association SDL-LSF, c'était Là où personne n'est de Jeanne Delpy. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a évoqué un peu vos contextes, comment s'est créée l'association. J'aimerais qu'on revienne sur les événements que vous organisez, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus?
Alors, là actuellement l'événement le plus proche qu'on organise c'est une soirée qu'on a en collaboration avec l'association des jeunes sourds de Poitiers, donc qui s'appelle Goul Jeune. C'est une soirée qui s'appelle Bar Signe, et en gros, ça a inspiré des cafés signes, et ça permet des rencontres entre les entendants et les sourds, pour discuter en LSF tranquillement, tranquillou pipou. qu'importe le niveau, il ne faut vraiment pas avoir peur de discuter avec eux. Pour en connaître pas mal personnellement, ils sont très gentils, ils ne vont pas vous manger. Et non mais c'est très sympa, en plus on est dans l'ambiance bar, donc on est plus à même à discuter et à parler des choses, enfin voilà. Et cette soirée là, donc c'est le 9, ah 1, 2, 3, c'est le 9 avril au soir, dès 20h30 au bar des papas qu'on l'organise, voilà. Dès 20h30, ça veut dire vous pouvez venir après tranquille, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, sans inscription, nickel, tranquille ou pilou.
Est-ce que c'est votre premier événement ou vous avez l'habitude d'organiser des événements? Est-ce que vous les organisez tous les mois, toutes les semaines?
Bah alors, cet événement-là précis, le Bar Signe, on l'a déjà organisé avant, une fois, pour tester, parce que c'est la première fois qu'on collaborait avec Goul Jeune. Et c'était bien, du coup on continue. Et sinon on avait fait plein d'autres événements, par exemple, on a fait les paramarraines, comme j'ai expliqué. On a fait une journée, soirée d'intégration pour ceux qui venaient d'arriver. On a fait le village associatif pour présenter notre asso à tout le monde. On a fait quoi d'autre, Lucas, si tu te souviens?
Récemment, on a fait la journée nationale des sports et du handicap.
C'est vrai, on était présents à l'EJNSH.
Où il y avait un petit stand de prévention. Et après, l'année dernière, où on a fait un plus gros événement, où du coup, on a eu l'honneur de pouvoir organiser un concert de chansigne, où on a invité du coup une artiste chansigneuse qui a pu chansigner sur un groupe qui s'appelle Laetitia Mohican.
La chansigneuse s'appelle Letty.
Letty.
Et le groupe s'appelle Mohican. Et le chansigne, juste pour préciser ce que c'est, si jamais il y a besoin de savoir, c'est en gros, il y a un concert de musique et autres, et il y a une performeuse, donc là, Letty, la chansigneuse, qui, j'ai pas envie de dire qu'il traduit parce que c'est faux, elle traduit pas le texte, mais c'est très proche, et comme ça, c'est plus accessible.
Est-ce qu'en dehors de vos cours à l'université, vous avez pris des cours ou des formations pour apprendre à signer?
En dehors, non. Personnellement, je n'ai pas de formation autre. Après, À Poitiers, il y a des cafécines qui sont organisées. Et moi, j'y vais très souvent, du coup, parce que j'aime bien. J'adore l'ambiance, j'y discute bien. Et après, il y a quelques événements sourds aussi, en fonction des associations auxquelles je vais. Mais à part ça, j'apprends à la fac.
Et on se doute du coup que la langue des signes, est-ce qu'elle est universelle ou est-ce qu'il y a des différences en fonction de la nationalité ?
Non, elle n'est pas du tout universelle. Il y a des différences, comme tu l'as dit, en fonction des nationalités. Par exemple, la langue des signes française et la langue des signes américaine sont très proches, tandis que la langue des signes britannique est plutôt éloignée de la langue des signes française et américaine. Ça, c'est par rapport à l'histoire.
Et ce qui peut être amusant, c'est qu'on peut même trouver des variantes régionales en France même. Sur le mot « maman », par exemple, en langue des signes française, on va trouver plusieurs façons de signer le mot « maman » si on est à Paris, à Bordeaux ou à Poitiers.
C'est ça, il y a des petits signes un peu spécifiques, il y a des régionalismes.
Est-ce que lors de vos événements, vous collaborez avec des professionnels ?
T'entends quoi par professionnel ?
Des professionnels de la langue des signes.
En soi, Gouljeun, des jeunes sourds, ils sont sourds. Donc forcément, on collabore avec des professionnels de la langue des signes. Mais en soi, des professionnels...
Letty, du coup, on peut dire qu'elle est professionnelle.
C'est vrai qu'elle est professionnelle en soi.
Dans ce qu'elle fait, dans son champ signe. Et je crois qu'elle a été aussi traductrice et qu'elle fait beaucoup d'événements autour de ça.
Oui, elle a été interprète, du coup.
Interprète, pardon.
Tout à l'heure, tu parlais de prévention, Lucas. Est-ce que vous organisez des ateliers ou des événements autour de la prévention à l'Université de Poitiers pour les étudiants ?
Ce qu'on a fait, ce qu'on essaye de faire chaque année, c'est que souvent on organise quelques ventes de gâteaux. Et pendant ces ventes de gâteaux, on essaye de faire de la prévention autour de la surdité, de la langue des signes. Mais après, on n'a pas eu de gros événements à proprement parler, mis à part du coup les gros événements de chansigne qui sont aussi en soi des événements de prévention. Mais voilà.
Oui, par exemple, si je peux rebondir juste très vite, on a eu un événement. Une vente de gâteaux où on parlait de ce que c'était que l'audisme, qui est la discrimination envers les personnes sourdes, du coup. Comme par exemple, pour vous donner un petit exemple, c'est ne pas inclure une personne dans la conversation parce qu'elle est sourde, ou lui dire « attends, je t'explique plus tard », pour au final ne jamais lui expliquer.
Est-ce que vous avez appris la langue des signes durant votre licence, ou vous la pratiquez déjà depuis un certain moment, avant même votre licence ?
Pour moi... j'avais appris un peu avant, je m'étais réorienté donc à une autre licence et à d'autres cafés signes aussi, donc je suis venu avec des bases.
Ouais, moi j'avais genre le petit vocabulaire, bonjour, merci, mais pas plus, et j'ai vraiment commencé à apprendre, parce que je peux pas dire que je l'ai complètement appris encore maintenant, mais j'ai vraiment commencé à l'apprendre en arrivant dans la licence, et c'est aussi ça qui m'a donné vraiment envie de rester et de m'impliquer encore plus dans cette licence, que j'ai trouvé ça vraiment super.
Est-ce que vous avez d'autres événements dont on n'a pas évoqué que vous aimeriez parler ?
Je ne sais pas si on a évoqué la semaine des langues régionales. Non, en gros, c'était sur 3 jours en novembre. On a fait un stand pour, sensibiliser à ce que c'était que les langues régionales, langue de France, langue minoritaire, parce qu'on ne connaît pas forcément, par exemple, le poids de Vincent Tonger. Moi, à titre personnel, je ne connaissais pas forcément. Et enfin, voilà. D'autres événements aussi, mais là de tête, j'en ai pas d'autres.
De toute façon, on reviendra tout à l'heure pendant la discussion si vous
voulez.
Ça
marche.
Allongé sur nos lits de mort, je ne verrai plus le ciel. Il y a si longtemps qu'on devait se répandre. Ça nous mient, elle est où cette gare où nos chemins se séparent. Mais tu tiens nos souvenirs, on s'était promis de tout faire ensemble. Et si cette
plage, cours après ton ombre. Ou dans ta main, tu écris mon nom. Aujourd'hui, t'es plus là. On vit dans le passé comme millions d'étoiles. Sayonara, comme un adieu. Un jour, ça ira mieux. Retrouvera quand on sera vieux. Sayonara comme un adieu. J'écouterai tes histoires avec des images dans le regard. Jusqu'à leur premier pas, des enfants tu n'en voulais pas. Qu'est-ce qui a pu changer? Tu gardes cet espoir, ta confiance en l'avenir. Moi j'ai déjà cessé d'y croire. Sayonara, comme un adieu. Un jour ça ira mieux pour moi. J't'oublie bon vent à toi, mon amour. Sayonara, comme un adieu. On se retrouvera quand on sera vieux.
Plus ça.
Plus ça.
Il est 18h23, vous êtes sur Radio Pulsar dans À l'Asso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous accueillons Lucas et Axel de l'association SDL-LSF de Poitiers. C'était Sayonara de Blue Fear. Tout de suite, retrouvez Ilona et sa chronique.
Dans un monde où la communication par la voix est omniprésente, la langue des signes offre une différente manière de communiquer pour ceux qui sont sourds ou malentendants. En effet, c'est leur symbole, ça leur offre une voix pour échanger sur leurs histoires, leurs expériences. C'est bien plus qu'un simple moyen de communication, c'est une fenêtre sur un monde silencieux, une manifestation de culture et une expression artistique. Mais évidemment, la langue des signes va au-delà de la simple communication fonctionnelle. Elle est également un art à part entière. Les poèmes, les chansons et les histoires peuvent être racontés avec une beauté et une expressivité qui lui sont propres. Les interprétations visuelles et les jeux de mains créent un spectacle captivant qui peut être apprécié par tous, qu'ils entendent ou non. Je pense au film « Ma famille Bélier » d'Éric Lartigot, dans lequel Louane, le personnage principal, lors de son spectacle de chant, signe pour ses parents. Ses parents sourds et muets sont dans le public, donc ne peuvent pas savourer le moment. Louane, les voyant, commence à signer sa chanson afin qu'ils parviennent à comprendre l'histoire qu'elle raconte. C'est un moment très beau. Mais malgré toutes ces qualités, le pouvoir de la langue des signes est souvent ignoré. Il est important de reconnaître son importance et de la promouvoir dans tous les aspects de la société. Cela signifie fournir des interprètes en langue des signes dans les lieux publics et rendre les ressources éducatives accessibles en langue des signes. La langue des signes est, selon moi, un outil que chacun devrait porter comme bagage. En plus d'être une langue d'une beauté extrême, c'est un moyen de communiquer avec une communauté qu'on délaisse, n'ayant pas la capacité d'échanger avec eux. Il faut changer cela puisque ces personnes méritent tout autant que nous d'avoir accès à ce dont nous avons accès.
Juste avant la pause musicale, vous avez évoqué brièvement la semaine des langues régionales. Est-ce que vous pouvez développer ?
Oui. En gros, c'est un événement qu'on a fait en collaboration avec l'UPCP Métive, le CERDO. C'est un laboratoire de recherche sur les langues régionales en général. Et ils avaient animé un atelier de doublage d'extraits de films en Poitevin-Saint-Onge. Du coup, avec des membres du club de Poitevin-Saint-Onge de la fac. C'était très intéressant à voir. Après, moi, je ne comprenais rien parce que Poitevin-Saint-Onge, je ne le comprends pas et je ne le parle pas. Mais j'étais en mode, waouh, incroyable.
Je voulais savoir, parce que du coup, vous faites une licence dans la langue des signes, mais comment vous apprenez de par, la scolarité, en fait c'est étrange, comment, dans le cadre de la licence, vous pouvez apprendre? Est-ce que c'est vraiment des cours où vous signez? Est-ce qu'il y a des cours plus théoriques? Est-ce que... Juste voilà, un petit topo.
Alors du coup, on ne fait pas seulement une licence sur la langue des signes, nous, c'est juste une option qu'on a, du coup, comme je disais au début.
Juste, c'est un parcours, c'est pas une option.
Pardon, c'est un parcours. Il y a deux parcours dans la licence, du coup, soit les langues slaves, soit la langue des signes. Nous, on a pris la langue des signes et nos cours, on en a depuis la L1 à minima 2 heures par semaine, plus si on prend une option cette fois en plus. Et du coup, ces cours, ils sont présentés par des professeurs qui sont sourds. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est vraiment je vais pas dire confronté, mais on est vraiment du coup plongé dans le monde sourd avec eux et on n'a pas d'autre choix que de communiquer directement en langue des signes et c'est comme ça qu'on apprend plus vite et d'une meilleure manière, je pense.
Merci. En parlant d'apprentissage de la langue des signes, quelles sont les différentes techniques ou moyens pour apprendre cette langue ?
Ah, c'est vaste comme question pour apprendre. Déjà l'immersion, comme Lucas a dit, c'est pour ça que j'ai dit les cafés signes, le bar signes, vraiment être plongé dedans, discuter avec les sources, c'est la chose principale pour vraiment apprendre. Après, y a des petites vidéos sur YouTube, faire attention. Personnellement, je trouve que c'est important de faire attention à ce que la personne qui fasse les vidéos YouTube soit sourde et pas entendante. Même si elle est, même si ses parents sont sourds ou autres, c'est toujours mieux d'avoir une personne sourde. Et après, il y a des dictionnaires en ligne, vidéos YouTube, enfin voilà, plein de choses possibles.
Qu'est-ce qui vous a personnellement donné l'envie de créer cet asso ? Vous me parlez du parcours que vous avez à la licence. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller plus loin que ce parcours et créer une association ?
Comme j'ai dit, l'asso, ça fait 10 ans qu'elle est créée. Moi, ça fait pas 10 ans que je suis à la fac, donc je ne suis pas dans la tête de ceux qui étaient là. Mais ils avaient pour but de rendre visible la licence et de la faire vivre, en fait, tout simplement, d'avoir une vie étudiante au sein de cette licence. Et elle était accès à l'ESF aussi. Après, nous, on s'ouvre plus en ce moment aux langues slaves aussi, enfin, au parcours langues slaves. 1, 2, 3, j'ai perdu ta question.
Qu'est-ce qui vous a poussé du coup à rejoindre l'asso et en faire partie ?
Moi j'aime bien animer la vie étudiante de manière générale, donc dès que je suis rentré dans la licence, je me suis dit vas-y, je vais tenter, je vais demander si je peux, et j'étais intégré et ça continue.
Et moi, j'avais pas spécialement prévu de rentrer dans l'asso à la base, c'est à la fin de mon année de L1. Où l'ancien bureau commençait à recruter pour pouvoir faire poursuivre la flamme de l'asso et continuer du coup à faire des événements et à promouvoir tout ce qui est important de la licence. Et du coup, je me suis dit, comme j'avais jamais eu d'expérience associative, que c'était un bon moment pour essayer, sachant que c'était quand même des sujets qui me tenaient à cœur et qu'il fallait bien commencer quelque part.
Alors moi, j'ai envie de revenir sur le moment où tout à l'heure vous aviez parlé du coup des différences entre le langage des signes dans les différentes régions. Par exemple, l'exemple que vous avez donné avec maman. Comment du coup ils font pour se comprendre, même dans la France en fait, sur ces petites différences-là ?
Alors, juste précise avant, on dit langue des signes, il n'y a pas langage des signes.
Ah.
Voilà. T'inquiète, hein, c'est juste, la faute elle est commune et beaucoup de monde le disent, mais je le précise.
Je la ferai plus.
T'inquiète. Et comment ils se comprennent ? Souvent, c'est des signes, par exemple, maman, c'est un signe qui est très commun. Genre, on l'a tous entendu dans sa vie. Et du coup, pour eux, c'est pareil. Au bout d'un moment, ils savent quels signes sont utilisés. Des fois, par exemple... à la radio vous pouvez pas voir mais Paris il y a deux signes, il y en a un où on l'utilise et un où on utilise l'autre main aussi pour placer le signe en soi. C'est, le deuxième que je suis en train de faire, c'est, il est plus utilisé à Paris tandis que l'autre plus utilisé autre part en France, mais c'est intercompréhensible, c'est comme nous on a différents mots qui veulent dire la même chose.
Tout à l'heure vous avez parlé justement de l'objectif de l'association et moi je voulais savoir, est-ce que cet objectif là a été atteint ou pas, ou est-ce qu'il y a une marge encore pour justement atteindre cet objectif?
Pour moi, il y aura toujours des progrès à faire à partir du moment où, comme on a pu le voir dans la chronique, le monde sourd est encore beaucoup exclu et il n'y a pas assez de sensibilisation sur la langue des signes. Les langues slaves, c'est quelque chose de pas beaucoup connu. Pareil pour les langues de France, c'est quelque chose qui est beaucoup mis de côté, même s'il y en a beaucoup qui sont du coup minoritaires et qui commencent à être oubliés. Je pense que c'est encore important de s'en souvenir et de les faire vivre. Donc à partir de là, il y aura toujours du travail à faire sur de la sensibilisation. Et je ne sais pas si ce serait un travail qui pourra un jour être achevé.
La question que je vais poser, je ne sais pas si ça rejoint un peu ce que Ziggy a posé comme question tout à l'heure. Donc si ça vous fait répéter, je suis désolée. Mais est-ce que la langue des signes, c'est quelque chose qui vous touche depuis petit ? Donc c'est pour ça que vous avez voulu poursuivre ce parcours-là ? Ou est-ce que c'est juste par curiosité et du coup vous avez dit « Ah c'est trop cool !» Genre là, c'est juste. Est-ce que ça vous touche particulièrement ou...
À la base, moi, c'était vraiment par curiosité. Okay. Il y avait des cours bonus qui étaient proposés dans mon ancienne fac. J'ai fait « Allez, on y va !» Avec une amie, on est allé, on a adoré. On a continué d'aller au Café Signe et autres. Et au fur et à mesure, c'est quelque chose qui me tient à cœur maintenant.
Moi, j'avoue que, comme beaucoup, j'en avais pas entendu parler avant très longtemps. Et même avant d'arriver dans cette licence dans laquelle je me suis retrouvée un peu par hasard de base, et puis finalement j'étais contente d'y être. mais avant que je rentre dans cette licence, j'avais un ami qui commençait à s'exercer à la langue des signes, et c'est là que ça a commencé à me toucher et de me dire « Ah, effectivement, ce serait peut-être intéressant de s'y pencher ». Et du coup, une fois dans la licence, bah, je me suis dit « C'est l'occasion » et j'ai commencé à vraiment m'y plonger de manière sérieuse.
J'ai envie d'ouvrir un petit débat. Est-ce que vous pensez, parce que moi je suis pour le fait d'apprendre, par exemple j'ai mes petits cousins quand ils étaient petits, on leur a fait apprendre directement la langue des signes, enfin quelques mots pour dire par exemple j'ai soif ou de l'eau, je veux de l'eau, etc. Et moi je suis pour d'apprendre aux plus petits directement dès qu'ils n'ont pas encore accès à la parole. Est-ce que, je ne sais pas comment trouver cette question, je pense que vous voulez, enfin vous voyez où est-ce que je veux en venir, oui, mais est-ce que du coup vous êtes bah, pour ça, oui. Je ne sais pas comment tourner ça, mais bref, on va dire que vous avez compris.
On a compris ce que tu veux dire.
Ok, super.
Alors, moi je suis pour le fait d'être proche de la langue des signes dès le plus jeune âge, et n'importe quel âge en fait, tout simplement. Souvent, ce qui est proposé aux enfants, c'est ce qu'on appelle le bébé signe, c'est-à-dire qu'on reprend des signes de la langue des signes française, et que la manière de les appliquer et la manière de les effectuer, parce que bah, les enfants, ils n'ont pas la même motricité que nous. La manière de les appliquer aussi, ce n'est pas les mêmes. Par exemple, c'est souvent en chanson, dès qu'il y a le mot, je ne sais pas, l'escargot, et ben on fait l'escargot, et ensuite, on continue l'histoire de cette manière. Tandis que la langue des signes, elle a sa propre syntaxe, qui n'est pas la même que le français, du coup. Et en soi, ce n'est pas très grave, et c'est même très bien que ce qui soit exposé au bébé signe plus tôt. Après, la question, c'est est-ce que on continue de les faire exposer à la langue des signes en grandissant toujours. C'est ça la grande question.
C'est vrai, c'est réel. Vous en pensez quoi, vous, nos animateurs ?
Moi, je trouve que c'est important de sensibiliser les gens sur cette thématique-là. Parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont exclus. Parce que bah, du coup, ils ne sont pas mis dans la conversation. Et à chaque fois, on leur dit « ouais, bah, on dira après, on laisse la conversation se finir ». Et du coup, je trouve que bah, on... Comment dire ? Comme un peu l'anglais, tu vois, on met ça dans l'éducation en disant, bah voilà, on vous fait apprendre la langue des signes, comme ça, bah, y a tout le monde qui est inclus, et ça aide les gens à mieux comprendre la cause aussi, je pense, enfin, à être mieux sensibilisés.
Oui. Ça me trotte en tête, du coup, la question, la question d'Axel. C'est vrai que c'est là, en fait, le vrai débat. Il n'y aura pas de réponse, je ne pense pas, à moins que vous ayez une réponse.
Non, parce qu'en fait, apprendre une langue, quelle qu'elle soit, oui, c'est selon la volonté de la personne qui l'apprend. On ne peut pas forcer au bout d'un moment
oui,
aux gens à apprendre la langue.
On ne peut pas imposer, c'est pas bien.
Après, la question aussi, c'est comment on sensibilise pour que bah, les gens apprennent, veulent apprendre.
Tu voles mes questions. J'allais vous la poser juste après.
Trop fort.
Et du coup, est-ce que tu as une réponse à ça ? Comment on fait pour mieux sensibiliser les gens autour de cette thématique-là ?
C'est très vaste comme potentielle réponse. Je pense qu'il faut juste, enfin, c'est mon avis personnel, hein, mais il faut juste tenter tout type de sensibilisation possible. Vraiment mettre les sourds au cœur des choses, pas parler en tant qu'entendant à leur place. Non, les sourds, ils parlent. Pardon. Les sourds, ils parlent pour eux. Et il faut juste les écouter, en soi. Ça a l'air paradoxal comme phrase, mais on les écoute avec les yeux.
Après, moi, je pense que quelque chose qui pourrait être fait et qui n'est pas assez fait, c'est, c'est à partir de la primaire, on a une deuxième langue à apprendre. Je pense que mettre la langue des signes en deuxième langue d'apprentissage, ça pourrait être super et que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas assez fait en France et je pense à peu près partout dans le monde. Après, je n'ai pas la vue, j'ai pas une vue universelle là-dessus. J'avoue, je ne me suis pas beaucoup renseignée. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait et qui ne demanderait pas forcément énormément d'efforts, mis à part de mettre en vue et de... pas récupérer, mais d'embaucher des enseignants sourds pour qu'ils puissent faire apprendre du coup la langue des signes bah, aux enfants tout au long de leur scolarité.
Est-ce que dans votre parcours, je ne sais pas si vous l'avez dit, vous apprenez à, je ne sais pas si on dit traduire ou interpréter du coup un texte ou des vidéos ou des films ou quoi que ce soit ?
Alors en soi, oui. Surtout dans l'option LSF. Genre, on a le parcours, mais dans l'option LSF, on a un cours qui s'appelle Pratique réflexive de l'interprétariat. Et c'est souvent une interprète qui nous fait cours, du coup. Et comment dire ? Et il nous présente des méthodes d'interprétariat ou comment ça se passe de manière générale. Voilà, sachant que c'est rapide l'interprétariat, donc forcément on utilise la mémoire de travail, du coup on voit comment ça fonctionne la mémoire de travail, les situations, comment elles fonctionnent et autres. Comme c'est très vaste en soi, les situations peuvent varier d'une à l'autre, de manière générale, il nous présente comment ça peut fonctionner.
Parce que moi, je trouve ça super impressionnant de, on dit du coup traduire ou interpréter
Ça dépend ce qu'on fait. Okay. Interpréter, c'est vraiment quand il y a un discours direct entre deux personnes.
Okay.
Comme les interprètes en anglais à l'ONU, par exemple, c'est la même chose, mais du coup avec des personnes. Et traduire, c'est plus, on prend le temps, on a là une préparation et la traduction, elle se fait le temps de... Je donne un exemple, il y a une émission qui se fait, on veut intégrer un interprète dans l'émission, ils ont les textes, ils ont le temps de traduire, de filmer, et ensuite c'est incrusté. C'est pas comme en direct où ils sont dans le studio, il y a la caméra, ils ont tout ce qu'il faut, et d'un coup, bam 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 bam, ils entendent, ils voient, et bam bam bam, ils signent, et ils interprètent. C'est pas pareil. Mais c'est le même travail en soi de réflexion.
Et du coup, c'est pas dur de tout retenir, tous les gestes et tout. Enfin, est-ce que vous vous entraînez en dehors de vos... 1, 2, 3, je vais y arriver. Est-ce que vous vous entraînez en dehors, genre chez vous, je sais pas, dans vos miroirs ou j'en sais rien
Moi, oui. Okay. Après un cours, souvent, je me dis, ok, on a vu ça, on a vu ce signe-là, on a vu ce signe-là, ok. Ah, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Mince, j'ai oublié, je vais demander au prof la prochaine fois. Après, des fois, je filme, je prends mon téléphone et je me filme en train de faire le signe et je dis, ça, c'est le signe pour ferme, par exemple, la ferme des animaux. Après il y a des dictionnaires en ligne aussi qui permettent de voir, ah on a vu ça, ah ok ce signe là je savais pas. Et comme j'ai dit, j'ai aussi, enfin encore à titre personnel, quand je vais au café signe, je discute avec les sourds et à ce moment là j'apprends.
Moi j'avoue que je travaille pas assez chez moi la langue des signes, shame, mais je devrais bosser plus chez moi. Mais après quelque chose, je suis arrivée un peu en me disant peut-être que la langue des signes, vu qu'on parle pas, ça va être plus simple à mémoriser tous avec les mains, tranquille. Et finalement, moi qui suis assez nulle en langue, je galère autant sur une langue parlée qu'une langue signée, donc bon, va falloir travailler sur les deux.
Est-ce que vous avez des conseils pour celles et ceux qui veulent débuter dans la langue des signes?
Mon conseil, ça reste le même, hein, vraiment. Tous les événements sourds, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Souvent, la première discussion, c'est « Salut, je m'appelle nanana, ok, j'ai quel âge, nanana ?» Enfin, « Tu as quel âge, nanana, ok, tu fais quoi, tu veux faire quoi plus tard ?» Voilà, c'est la discussion basique, mais il ne faut pas avoir peur. Après, vraiment s'immerger avec les sourds dans ce qu'ils font. C'est pour ça que, par exemple, il y a un café signe à Poitiers, certains vendredis soirs, c'est au Bafalou. Et donc, les jeux de société, ça permet de mieux discuter si on n'a pas forcément de sujet de conversation ou autre. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'immersion, le principal conseil.
Pour moi, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, je suis vraiment plutôt d'accord. Parce que du coup, comme pour les langues parlées, on dit tout le temps, oui, il faut aller faire un voyage dans le pays, et à partir de là, on l'apprend sur le bout des doigts, la langue des signes, c'est pareil, sauf que là, on n'est pas obligé d'aller voyager dans un autre pays. On a accès directement dans notre ville, surtout à Poitiers, où on a la chance d'avoir une communauté sourde qui est vraiment très grande, avec beaucoup de jeunes qui font beaucoup de choses. Très souvent, du coup, tous les mois, on va retrouver les bars signes qui sont très accessibles, qui ont beaucoup de communication dessus. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller et commencer quelque part, même si ça peut faire peur.
Avant de conclure l'émission, je vais vous poser... l'ultime question. Si vous deviez décrire du coup l'association en un mot, soit un mot chacun, soit vous vous mettez d'accord. Là, c'est la question, il faut réfléchir, à moins que vous l'avez direct.
Ouais, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot, Lucas?
Moi, j'avais ouverture, mais ça fait très bateau.
Mais en vrai, c'est vrai.
Oui,
en vrai, c'est vrai. Ça. En vrai, je suis d'accord avec ouverture.
Parce que c'est une ouverture sur plein de trucs, sur plein de langues du coup que pas grand monde connaît, que ce soit la langue des signes, les langues slaves qui sont souvent un peu oubliées parce qu'on se dit que ça fait peur, les langues régionales qui sont très oubliées aussi par faute de standardisation du français et de l'anglais. Et du coup, toutes ces variantes régionales, toutes ces langues de communautés qu'on va oublier. Et du coup, je pense que c'est l'ouverture... sur des choses qu'on ne connaît pas.
Et même sur un aspect plus associatif étudiante, c'est ouverture à la vie étudiante, ouverture à découvrir plein de choses.
Ah, la transition, incroyable.
Ça finit très bien l'émission, je trouve. Sur ces belles paroles, merci d'avoir été présent à nos côtés ce soir, Lucas et Axel.
Merci à vous.
J'ai changé les regards. pour rappel, le 9 avril, le soir, au bar des papas, c'est ça ?
Bar des papas, ouais.
Bar des papas. Du coup, vous avez une soirée bar signe. N'hésitez pas à y aller pour, comme on disait, pour être en immersion dans ce milieu qui est très enrichissant, mais très intéressant. On peut vous retrouver sur les différents réseaux sociaux, surtout sur Instagram.
Oui.
Et voilà, merci d'avoir été présent à nos côtés.
Quant à nous, on se retrouve à la même heure sur la même antenne mardi prochain. Vous pouvez retrouver les actualités de l'AFEV sur notre Instagram, afev-poitiers. Également retrouver les diverses actualités de Radio Pulsar sur leur Instagram ou leur site internet. Et surtout, n'oubliez pas, apprenez la langue des signes. Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée.
Pour moi, l'engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. C'est savoir donner son humanité.
Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens.
Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable.
Je pense qu'il faut le faire, au moins une fois dans sa vie. Comme déjà, il faut le faire pour soi avant tout, et ensuite, il faut aussi le faire pour les autres.
Alors, en fait, c'est quoi la fève?
C'est la convivialité.